France Culture.
On fait le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Anne Fauquemberg. Rebonjour Anne.
Bonjour Marie, bonjour à tous. François Bayrou réunit plusieurs ministres cet après-midi à Matignon afin de définir de nouvelles orientations en matière d'immigration. La relation franco-algérienne s'est invitée au cœur de ce conseil interministériel après l'attentat de Mulhouse le week-end dernier. Nous serons en direct avec Antoine Maret au début de ce journal et nous poursuivrons le débat avec le politologue Hasni Abidi, invité de ce journal. L'émotion et le recueillement en Israël, des milliers de personnes se sont rassemblées le long du passage du cortège funéraire transportant les dépouilles de Shiri Bibas et de deux de ses petits garçons tués en captivité à Gaza. Le père de famille, rentré lui vivant, a aussi pris la parole. Reportage à suivre de Simon Le Baron. À la prison de Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne, le narcotrafiquant Mohamed Amra a été placé sous un régime d'isolement extrêmement strict. Nous serons sur place. Enfin, après des années de profits records, le groupe automobile Stellantis affiche aujourd'hui des résultats en Berne. Nous ferons le point avec Hakim Kasmi. Une dizaine de ministres rassemblés en conseil interministériel de contrôle de l'immigration. Cet après-midi, le Premier ministre François Bayrou réunira une partie de son gouvernement pour débattre, selon Matignon, des moyens pour reprendre le contrôle des flux migratoires et définir des orientations en la matière. Après l'émoi national provoqué par l'attentat de Mulhouse, la relation franco-algérienne devrait prendre une place importante lors de cette réunion. L'Algérie ayant à plusieurs reprises refusé de laisser entrer sur son sol le suspect qui était expulsable, un cas loin d'être isolé. Bonjour Antoine Maret.
Bonjour Anne.
L'échange devrait durer environ une heure cet après-midi. Plusieurs options sont sur la table pour résoudre ces difficultés de coopération avec l'Algérie.
Plusieurs options et deux écoles au sein même du gouvernement. Celle du rapport de force incarné par Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur veut par exemple priver un certain nombre de personnalités de la nomenclatura, de diplomates, des facilités dont ils bénéficient actuellement pour les visas. L'autre école est celle de la diplomatie, portée par Jean-Noël Barrot. Le ministre des Affaires étrangères s'est dit défavorable au rapport de force pour le rapport de force. Ce matin, sur France 2, il a plaidé pour la carotte et le bâton avec l'Algérie à l'échelle européenne.
Si un pays ne coopère pas avec les autorités françaises, je vais proposer que tous les pays européens, en même temps, puissent restreindre leur délivrance de visa. Si à l'inverse, un pays améliore sa coopération en matière de reprise des étrangers qui sont en France en situation irrégulière, alors je propose que nous puissions appliquer des baisses de droits de douane, parce que c'est un levier qui est particulièrement puissant. Et là encore, au niveau européen.
Jean-Noël Barrot qui souhaite également que les juges puissent décider de placer et de maintenir en rétention un étranger en situation irrégulière, ce qui n'est pas possible actuellement. Ces deux visions vont donc se confronter, se frotter lors de la réunion de cet après-midi avec un arbitre, le Premier ministre qui prendra la parole à l'issue du Conseil.
Les précisions d'Antoine Maret et l'Algérie expriment ce midi son étonnement face à ces possibles restrictions d'accès à la France pour ses ressortissants. Toujours dans ce dossier, selon le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal aurait dessaisi ses avocats. C'est une décision qui nous étonne et dont nous voulons éclaircir les circonstances, a précisé le ministre. L'écrivain est incarcéré en Algérie depuis novembre dernier. Le pouvoir lui reprocherait notamment un entretien dans la presse, dans lequel il reprend notamment la position du Maroc, selon laquelle le territoire du royaume aurait été tronqué sous la colonisation française au profit de l'Algérie. Car au-delà des laissez-passer consulaires. En effet, la relation franco-algérienne s'est crispée ces dernières semaines autour du revirement français sur la question du Sahara occidental. Gérard Larcher, le président du Sénat, deuxième personnalité politique du pays, était d'ailleurs en visite officielle hier au Maroc et plus précisément dans la ville de Laayoune, chef-lieu de la province du Sahara occidental. Il y a reflété la nouvelle doctrine française énoncée par Emmanuel Macron fin octobre, à savoir le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. En quoi ce tournant diplomatique renforce les tensions avec l'Algérie. Pour en parler, nous sommes avec Hasni Abidi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et la Méditerranée à Genève. Dans ce conflit gelé depuis les années 70, le gouvernement français a donc pris le parti tout récemment de reconnaître la souveraineté du Maroc sur ce territoire revendiqué depuis plus de 30 ans par le Front Polisario, un mouvement indépendantiste soutenu par l'Algérie. Que représente ce revirement de la France pour l'Algérie ?
Il représente un tournant pour l'Algérie, parce que la France avait toujours gardé et préservé une position d'équilibre dans ce conflit, de par sa position comme membre du Conseil de sécurité, qui a voté à plusieurs reprises ce qu'on appelle le mandat de la MINURSO, les forces des Nations Unies, et qui a plaidé en quelque sorte pour une solution acceptée par toutes les parties. La reconnaissance de la marocainité du Sahara ou du réalisme du plan marocain constitue bien sûr un revirement important, mais aussi finalement une...
Hasni Abidi, qu'on retrouvera dans un instant.
Des milliers de personnes se sont rassemblées ce matin le long des routes en Israël pour saluer le passage du cortège funéraire transportant les dépouilles de la famille Bibas.
Shiri Bibas et ses deux petits garçons avaient été tués en captivité à Gaza après l'attaque du Hamas du 7 octobre. Leurs dépouilles ont été restituées la semaine dernière par le mouvement islamiste palestinien dans le cadre du cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Vous êtes en direct sur place. Les Bibas sont devenus le symbole de la tragédie des otages et tout le pays est uni aujourd'hui à l'occasion des funérailles de la mère de famille et de ses deux enfants.
Oui, vous avez parlé de ces milliers de personnes, dizaines de milliers de personnes le long des routes quand passent les trois véhicules noirs frappés du ruban jaune, le symbole des otages. Soudain, le silence se fend. Leslie tient dans ses bras la première de ses petites filles. Elle explique qu'elle a accouché il y a quelques jours, que son bébé est chez sa mère, puis elle fond en larmes. Comment peut-on faire ça à un enfant ? Partout, du bleu ciel et du blanc, ces couleurs que Marom porte sur le dos.
Ici, on aime porter le drapeau. C'est comme si c'était le pays qui nous enveloppait. D'ailleurs, quand les otages sont revenus, on leur a tout de suite mis un drapeau sur les épaules. C'est comme une étreinte collective.
Toutes les télévisions du pays diffusent ensuite la cérémonie. Yarden Bibas, le père, s'adresse à ses enfants et à sa femme. Il parle de la dernière décision qu'ils ont prise ensemble ce 7 octobre. Je t'ai demandé, on se rend ou on se bat ? Tu m'as dit, on se bat. Et il demande pardon de ne pas avoir su les protéger. Devant l'écran géant, place des otages à Tel Aviv, des milliers de personnes et dans les têtes, cette question pour toujours sans réponse que pose Judy. Aurait-on pu éviter cela ?
C'est tellement triste que ça se soit terminé comme ça. C'est tellement triste que nous n'ayons pas réussi à les ramener en vie quand c'était encore possible.
Au loin, on entend des explosions, des exercices, précise l'armée. Dans cette région, le recueillement ne dure jamais longtemps.
Simon Le Baron, merci. Envoyé spécial en Israël avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. Le Parlement israélien a également observé une minute de silence ce matin en hommage à la famille Bibas et aux autres victimes du 7 octobre. Par ailleurs, un accord a été conclu au Caire avec les médiateurs entre Israël et le Hamas. Les prisonniers palestiniens qui devaient être relâchés samedi dernier devraient être libérés demain en échange de la restitution des corps de 4 ex-otages israéliens décédés à Gaza. Le corps du franco-israélien Oad Yahalomi devrait être présent, a fait savoir un groupe palestinien allié du Hamas, confirmant la mort de ce dernier pendant sa détention. Nous avons retrouvé Hasni Abidi pour parler de la relation franco-algérienne qui s'est crispée donc ces dernières semaines autour du revirement français sur la question du Sahara occidental. Le Maroc contrôle actuellement 80% du territoire du Sahara occidental, le Front Polisario 20% à l'est. Une mission des Nations Unies, vous étiez en train de le dire, est toujours sur place. Que dit l'ONU au sujet de ce territoire exactement et en quoi cela place-t-il la France en porte-à-faux ?
Les Nations Unies placent toujours la question de Sahara occidental dans sa commission qui est chargée de la décolonisation. Elle a un envoyé spécial qui est chargé justement de mener des négociations avec toutes les parties pour organiser à la fois des discussions, mais surtout pour trouver une solution acceptable par toutes les parties. En quelque sorte, le conflit est toujours ouvert. Il est placé dans le cadre des Nations Unies, ce qui irrite les autorités algériennes. Il les a surpris le président Tebboune qui s'est engagé avec le président Macron à œuvrer pour une feuille de route commune entre les deux parties. Et la position de la France, finalement, pour l'Algérie, elle sort du cadre tracé par le Conseil de sécurité.
Revenons maintenant sur la question des OQTF qui va nous occuper aujourd'hui avec ce Conseil interministériel sur l'immigration organisé à Matignon. Certains ministres, à commencer par Bruno Retailleau, demandent de réviser le traité de 1968 qui réglemente le séjour, notamment des ressortissants algériens en France. Quelles pourraient être les conséquences d'une telle décision pour la relation entre les deux pays ?
Des conséquences seront douloureuses pour les deux parties, dans la mesure où aujourd'hui on n'assiste à aucune dynamique de négociation. C'est plutôt une machine à tension aujourd'hui qui est enclenchée, avec d'abord le monopole de ce dossier de relations entre l'Algérie et la France par le ministère de l'Intérieur, notamment Monsieur Bruno Retailleau. C'est inédit dans les annales des relations entre la France et l'Algérie, où la place du président, elle est primordiale, elle est importante. Avec d'autres pays comme le Maroc aussi, c'est le président de la République finalement qui monopolise cette parole. Aujourd'hui, ce que l'Algérie reproche à la France, c'est qu'il y a une absence de président français qui laisse le champ libre à des ministres qui ont bien sûr probablement des contentieux avec l'Algérie ou qui font un usage politique interne de la question de la relation avec Alger. Donc oui, les conséquences seront douloureuses sur probablement le plan économique, mais surtout sur la coopération sécuritaire, même si l'accord de 1968, comme tout le monde le sait d'ailleurs, c'est resté une coquille vide, au dire du président de la République algérienne. Ce qui est important aujourd'hui, c'est revenir à la négociation. Mais la réunion d'aujourd'hui, c'est un message fort pour Alger, pour dire finalement, il n'y a plus de désordre dans la position française. Il y a un certain consensus, même si le sujet concerne la question migratoire, la mobilité migratoire, mais on sait que ce sommet, ou cette rencontre plutôt interministérielle, elle est adressée. C'est un message envoyé pour les autorités algériennes, ce qui va certainement renforcer encore la tension entre les deux pays.
Merci Hasni Abidi d'avoir été l'invité du journal de Midi et Demi sur France Culture. Vous êtes le directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et la Méditerranée à Genève. Et merci à Louise Morfoise pour la préparation. Aux États-Unis, le groupe Tesla voit sa capitalisation boursière chuter sous les 1 000 milliards de dollars pour la première fois depuis novembre. L'action de l'entreprise, qui a perdu un tiers de sa valeur depuis la mi-décembre, a encore plongé de plus de 8% hier à Wall Street. La faute à des ventes médiocres en Europe, mais aussi peut-être au comportement de l'homme le plus riche du monde. À New York, c'est une correspondance de Loïc Loury.
En janvier 2024, plus de 15 000 immatriculations de véhicules Tesla avaient été enregistrées en Europe. Le chiffre, cette année, dépasse tout juste les 7 500. Le constructeur explique ce trou d'air par un changement de gamme, sans pour autant lever les inquiétudes et empêcher le plongeon d'hier à Wall Street, près de 80 milliards de dollars de capitalisation évaporée dans la journée. Après l'élection de Donald Trump, le cours de l'action pourtant avait bondi, les investisseurs estimant que la proximité d'Elon Musk avec le président pourrait être bénéfique à ses affaires. Mais leur humeur a manifestement changé et les prises de position d'Elon Musk y seraient aussi pour quelque chose. Chargé par Donald Trump de tailler à la hache dans les dépenses fédérales, le patron de Tesla s'est aliéné une partie de l'opinion américaine et internationale. Autant de consommateurs parfois écœurés par ses outrances et tentatives d'intimidation contre les fonctionnaires, ou son soutien affiché à l'égard de l'extrême droite allemande.
Une correspondance à New York de Loïc Loury. Les forces de défense antiaérienne russes ont intercepté et détruit au cours de la nuit dernière 128 drones aériens ukrainiens, des drones qui, selon Moscou, survolaient les différentes régions russes ainsi que la Crimée annexée. Selon la Russie, c'est l'une des plus importantes attaques de ce type depuis 2022. Et puis, selon l'Ukraine, il y aurait au moins 5 morts après des frappes russes dans l'est du pays.
Après son arrivée à Paris hier soir, le trafiquant de drogue Mohamed Amra est en détention provisoire.
9 mois après son évasion, après l'attaque d'Incarville qui avait causé la mort de 2 surveillants pénitentiaires, il a été mis en examen hier soir pour meurtre en bande organisée, recel de vol en bande organisée et association de malfaiteurs. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a confirmé son transfert à la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne, prison de haute sécurité. Où vous vous trouvez, Sandrine Etoa-Andegue? Bonjour.
Bonjour.
Compte tenu des enjeux de cette affaire, de l'extrême gravité des faits commis par Mohamed Amra, cet homme de 37 ans a été placé sous un régime d'isolement extrêmement strict.
Oui, effectivement, l'isolement absolu, la surveillance permanente, c'est ce qui caractérise le séjour de Mohamed Amra, hein, qui est donc en détention préventive dans l'une des prisons les plus sécurisées de France, ce centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe, dans la campagne normande, que l'on repère au loin avec ses miradors, à une architecture particulièrement conçue pour accueillir des détenus de son profil, des détenus particulièrement dangereux. Mohamed Amra, c'est simple, ne croisera personne. Il est seul dans sa cellule, il sera seul pendant son heure de promenade, pendant ses activités quotidiennes. Il a droit à 2 heures de communication par semaine, des communications qui seront écoutées, comme l'a précisé le ministre de la Justice Gérald Darmanin. Il a droit aussi à 3 visites par semaine, des visiteurs qui seront fouillés systématiquement. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'il n'ait aucun contact avec d'autres détenus, aucun contact non plus avec des personnes extérieures et notamment des témoins, des personnes qui pourraient être impliquées dans son évasion spectaculaire et sanglante il y a 9 mois. On le sait, il y a toujours une vingtaine de personnes en garde à vue en lien avec cette évasion. L'objectif est également de protéger le personnel, un personnel qui est habitué à ce genre de détenus, comme l'a précisé Damien Luce. Il est secrétaire interrégional FO Justice et il est venu ce matin voir ses collègues de Condé-sur-Sarthe.
Condé, de toute façon, a l'habitude de gérer des profils dangereux. Donc les collègues ont confiance en eux, en leur équipe, en leurs gestes professionnels. Le régime va être particulier pour ce profil-là. Hein. Bon, on a vu ce qu'il a fait, moi. On a vu qu'il avait, de par sa criminalité et son organisation, énormément de moyens. Donc, et malheureusement, des collègues en ont fait les frais. Darmanin, s'il a eu ce discours-là, et le discours qu'il a depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est que, au niveau du gouvernement, ils ont tous les billes pour se dire que la criminalité organisée a franchi une étape.
Gérald Darmanin qui admet aussi hein, qu'en ce qui concerne les évasions, eh bien, il ne peut pas, je cite, « garantir que cela ne se reproduise pas ».
Les explications de Sandrine Etoa Andeg en direct de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. Après des années de profits records, le groupe automobile Stellantis traverse une passe difficile. La maison mère de Peugeot, Fiat et Chrysler a présenté des résultats en forte baisse ce matin. Le chiffre d'affaires diminue de 17% pour s'élever à près de 157 milliards d'euros. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Anne Fauquemberg.
Des difficultés opérationnelles aux États-Unis et en Europe ont conduit le groupe à piocher 6 milliards d'euros dans sa trésorerie l'an passé.
Oui, c'est une année noire qu'a connu le groupe Stellantis avec une chute de 70% de son bénéfice. Alors si le constructeur engrangeait malgré tout 5,5 milliards d'euros de bénéfices sur un an, il paye les erreurs stratégiques de son ancien patron Carlos Tavares, débarqué à l'automne dernier, qui avait tout misé sur l'électrique et surtout augmenté fortement le prix de ses voitures ces dernières années afin d'engranger des marges très confortables. Une stratégie qui a montré ses limites, estime Benoît Vernier, délégué central CFDT chez Stellantis.
En tout cas, il a profité de cette possibilité d'augmenter les prix à un moment où la demande était là et où ça pouvait fonctionner. Cet effet d'aubaine a disparu. Aujourd'hui, on retrouve un schéma plus classique.
À cela, il faut ajouter les problèmes sur ses airbags Takata pour lesquels il a dû provisionner près de 2 milliards d'euros. Alors, ces difficultés peuvent-elles avoir des conséquences sur ses sites de production en France, notamment au niveau social? Pas à court terme, estime le syndicaliste.
On a des sites qui sont performants, qui tous les jours assurent la compétitivité face aux autres sites qui sont ailleurs qu'en France. Donc, on n'est pas forcément inquiet pour les sites en France. Après, il faut que cette situation-là, elle s'assainisse. Bon, on pense que 2024 a été une année charnière. La situation maintenant doit être saine et on doit repartir sur un bon niveau pour 2025.
Enfin, le groupe espère rebondir cette année avec la sortie de nouveaux modèles, notamment d'entrée de gamme, en France, en Europe et surtout aux États-Unis.
Hakim Kasmi du service économie de France Culture. Au salon de l'agriculture, après les politiques, place au patron de la grande distribution. Alors que ce secteur est accusé de tirer les prix vers le bas dans une stratégie préjudiciable aux agriculteurs, un appel un peu inhabituel a été lancé par l'animatrice télé Karine Lemarchand. Elle a réuni presque tous les patrons du secteur avec un objectif, proposer des actions pour mieux rémunérer les petits agriculteurs en difficulté. Karine Lemarchand et les patrons d'Intermarché, Coopérative U, Carrefour ou encore Casino ont présenté 3 grands chantiers, l'aura du lieu.
3 actions dont la première vise à aider les petits producteurs les plus en difficulté pour vendre leurs produits. Ils auront un espace dans les grandes enseignes, explique Dominique Schelcher, le PDG de Coopérative U.
On va leur ouvrir les portes de l'ensemble des magasins des enseignes participantes pour écouler en direct, sans intermédiaire, leur production et donc générer très rapidement du revenu supplémentaire. Donc il faut que ce soit un prix juste et c'est le prix donc qu'ils vont eux-mêmes fixer. D'accord ? On ne discutera pas ce prix.
Pas de négociation, pas d'intermédiaire et des factures payées plus rapidement par les enseignes, promettent les patrons. Et deuxième pilier d'action, de la communication pour écouler la surproduction. Concrètement, lorsqu'un producteur se retrouve avec trop de marchandises à écouler par rapport à la demande, les enseignes voudraient lancer une alerte à travers les médias pour inciter les consommateurs à acheter tel fruit ou tel légume. Et dernière action, enfin, la création d'un observatoire de filières d'avenir pour anticiper les besoins de demain et accompagner les agriculteurs à adapter leur production. Rien de concret n'a encore été mis en place, mais les patrons promettent de revenir dans un an avec des filières identifiées et des contrats signés. Et puis, il devait y avoir enfin un quatrième pilier d'action pour mettre la pression sur les industriels et leur transparence vis-à-vis du revenu reversé aux agriculteurs. Sauf qu'il manque un distributeur ce matin. Le groupe Leclerc regrette Karine Lemarchand.
22% fait Leclerc dans la vente des distributeurs, enfin, il représente 22%. Sans lui, on ne peut pas mettre la pression sur les industriels. Donc ce quatrième pilier, on l'a abandonné parce qu'il n'était pas avec nous. D'où un certain énervement personnel.
Et les patrons, eux, espèrent être rejoints plus tard par le groupe Leclerc sur ses actions.
Le compte-rendu de Laura Dulieu. La météo, c'est toujours pluvieux au nord et au centre du pays. Temps ensoleillé sur la façade est et le pourtour méditerranéen. Les températures, cet après-midi, de 10 à 16 degrés du nord au sud. Ce journal a été préparé avec Nicolas Paumet. Prochain journal, 18h, avec Aurélie Kiefer.